Bonjour à toutes et à tous. Bien. J'espère que vous allez tous bien. Alors, aujourd'hui, on arrive quasiment à la fin de l'épître aux Éphésiens. Je crois qu'il ne reste plus qu'un seul message. Aujourd'hui, nous allons étudier un passage très pratique. On a dit, certains ont déjà eu l'occasion de le dire, l'épître aux Éphésiens est une partie très théologique, théorique, et elle se termine par plusieurs enseignements pratiques. Et là, on est vraiment au cœur de la pratique de cette lettre de Paul. Et il nous laisse beaucoup de conseils dans le passage que nous allons lire en trois fois. Et je ne vais pas m'attarder sur ce qui a été rappelé à maintes reprises en introduction des différents messages qui ont eu lieu avant celui d'aujourd'hui. Mais en tout cas, celui qui arrive aujourd'hui arrive sans aucune transition par rapport à ce qui a été dit la semaine dernière. Je m'explique. Nous allons aborder un thème très connu sur lequel on a beaucoup parlé, mari et femme, les enfants, et puis les relations entre employeurs-employés. Ce qui est étonnant, ce qui m'a surpris, c'est qu'il n'y a pas de temps mort entre le premier thème, celui de mari et femme, et ce qui avait été dit précédemment. Alors, précédemment, Paul nous rappelait de nous conduire avec sagesse, à être reconnaissants et à nous soumettre les uns les autres. Ça, c'est le dernier verset que nous avons lu la semaine dernière. Et hop, tout de suite, il embraye avec ce fameux thème qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive et qui a certainement fait vibrer pas mal vos tympans pendant votre vie chrétienne, toutes les prédications que vous avez entendues, notamment au moment de mariage ou d'autres prédications encore. Donc, notre passage ce matin partira d'Éphésiens 5 au verset 21, en plein milieu d'un verset, et s'arrêtera au chapitre 6, au verset 9. Alors, je ne me réserverai que quelques rappels, parce que vous en avez déjà beaucoup entendu parler, mais quelques suggestions, quelques petits conseils pratiques à mettre en œuvre cette semaine. Alors, dans chacun des thèmes que nous aborderons, je vous laisserai un thème pratique pour cette semaine. C'était vraiment un désir que j'avais pour ce matin, c'est vous laisser des conseils pratiques, des exercices, si vous voulez, à mettre en application cette semaine. Alors une dernière chose, si vous n'êtes pas marié, si vous n'avez pas d'enfant, ne vous sauvez pas, restez avec nous, ça pourrait quand même vous intéresser. Il n'est pas dit qu'il n'y aura pas ça et là quelques conseils que vous pouvez vous approprier pour vous, notamment si vous êtes en recherche. Il y a de très bons enseignements pour savoir si il ou elle vaut la peine ou pas. Il y a peut-être des choses à retenir. Alors je commence. Je vais quand même reprendre un tout petit peu en amont, mais pas beaucoup, hein. Juste le verset précédent pour ne pas commencer une phrase en plein milieu. Donc je commencerai au verset 20. Rendez continuellement grâce pour toute chose à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et là je vous disais, il n'y a pas de transition et on arrive. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'haït sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Alors, voilà, j'arrête la lecture, on va lire successivement les trois parties et je donnerai quelques petits détails. Vous en avez déjà entendu beaucoup, beaucoup parler. Alors, c'est vrai que ce n'est pas dans l'air du temps, un passage comme ça, ce n'est pas dans l'air du temps d'affirmer qu'il y a un ordre entre le mari et la femme. Et pourtant, cet ordre, on ne peut pas le nier, ce n'est pas Paul qui l'a inventé, il a été tiré, c'est Dieu qui l'a institué au moment de la création, au moment où la femme a été tirée du corps de l'homme, pour que les deux ne forment qu'une seule chair. Il y a eu l'homme d'abord et il y a eu une femme ensuite. Alors je voudrais couper court immédiatement à une fausse idée qui voudrait que la femme ait été déclarée inférieure à l'homme. Ça, on ne le voit pas dans le texte. Non, les deux sont totalement égaux, mais un ordre a été établi par Dieu. Dieu n'a pas établi cet ordre au hasard, il l'a fait exprès. Alors il ne l'a pas fait exprès pour humilier la femme, il l'a fait déjà pour préfigurer, on est dans Genèse au chapitre 2, autant dire au tout début de la Bible. Il l'a fait pour préfigurer ce qu'il allait, un mystère, puisque c'est comme ça que Paul nous l'annonce, il préfigurait ici le rôle de Jésus et de son Église. Déjà au chapitre 2 de la Genèse, il y avait une préfiguration de Jésus voulant partager sa gloire avec l'Église. L'Église qui est composée de ses enfants. L'épouse céleste qui sera unie à Christ dans la gloire. Donc il n'est pas question ici d'humiliation. Au contraire, il est question ici de glorification. Alors c'est vrai, Paul relaye cet ordre divin en nous disant que le mari est là, le chef de la femme, parce que Jésus est le chef de l'Église. Paul n'est donc pas misogyne comme certains voudraient l'affirmer. Il rappelle là, ici, la majestueuse œuvre de Jésus à la croix pour sauver son Église et la promettre à une félicité éternelle. Moi, je trouve que c'est magnifique d'aborder les choses de cette manière. Alors, le texte, maintenant que nous l'avons très rapidement expliqué, nous pouvons y trouver, puisque nous lisons ce texte au crible de la manière dont Dieu, Jésus, va être uni à l'épouse, l'Église, pour la glorifier. Nous avons donc de précieux renseignements pour nous, pour notre manière de vivre en couple. Alors pour analyser notre manière de vivre en couple, nous pouvons regarder comment Jésus se comporte lui-même avec l'épouse, l'Église, qui est composée de ses enfants, qui forment son corps. Alors premièrement, Jésus est mort pour elle. Waouh ! Déjà, premier point, nous, Marie, hein, je suis marié, pour ceux qui ne me connaissent pas, déjà, la barre est mise très haute. Jésus est mort pour l'Église. Il est mort pour nous, et ça on le lit en Actes 20, 28. L'Église est sous la direction de Jésus, et ça c'est dans notre passage d'aujourd'hui, au verset 23. Quelque chose que j'aime beaucoup, l'Église est faite reine dans le ciel. Elle n'est pas faite esclave, elle est faite reine dans le ciel et sur les anges, et ça on le lit en Apocalypse 3, 21 et en 1 Corinthiens 6, 3. Je n'ai rien inventé. On apprend aussi dans Psaume 45 et dans Apocalypse 21 que l'Église est parée, c'est-à-dire qu'elle est préparée. Elle n'est pas habillée de guenilles pour qu'on se moque d'elle, au contraire, elle est parée de beaux bijoux et d'habits resplendissants. Et ça, c'est ce que je disais en introduction de cette partie, c'est parce que Jésus glorifie son Église. Et enfin, alors il y a peut-être encore d'autres points, mais j'ai retenu celui-là, je me suis arrêté là, en Colossiens 1, 24, nous apprenons que l'épouse de Christ fait partie de son corps. Elle est son corps. Alors si on prend ces vérités pour nos couples, chers amis, alors nous avons là beaucoup de choses à mettre en pratique et beaucoup de matière à réflexion, n'est-ce pas? Alors maintenant, plus précisément dans le couple, je me suis posé la question, est-ce qu'un homme peut dire à sa femme, tu me dois, ben oui, c'est la Bible, hein, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité, tu me dois la soumission. Wow. Ou une femme, est-ce qu'elle peut dire à son mari, moi je te rappelle que tu dois m'aimer. Que pensez-vous que ces attitudes pourraient engendrer comme conséquence? Alors moi je répondrai certainement pas l'épanouissement du couple. Certainement pas. Non, la soumission de l'un à l'autre et l'amour de l'autre pour l'un sont le fruit d'une décision, d'un acte délibéré, d'une action personnelle. Le couple, d'une certaine manière, c'est un équilibre. Alors certains diront, quelques détracteurs diront, vous avez vu, chez les chrétiens, les femmes, elles n'ont pas le droit de se marier d'amour, parce qu'il n'y a que le mari qui a le droit d'aimer la femme. Qui doit aimer la femme. Moi, j'ai envie de dire, c'est une plaisanterie. J'espère que c'est une plaisanterie. Quelle femme insensible pourrait repousser un homme qui l'aime comme Dieu a aimé l'Église et s'est offert pour elle? Et ça, chère mesdemoiselle, ça commence dès les fiançailles. Une jeune fille qui se sent aimée, qui se sent valorisée par un homme à ce point, il me semble qu'elle a de quoi décider si elle se voit de partager sa vie avec lui ou pas. De la même manière, qui pourrait affirmer que la Bible imposerait aux femmes de se résoudre à une soumission de force? Tu me dois la soumission. Ça, c'est une soumission de force. Mais rendez-vous compte, une soumission de force, mais c'est absolument horrible ce que je viens de prononcer. Ça porte un nom, ça. Ça s'appelle l'esclavage, ça s'appelle le despotisme. Est-ce que c'est ce que Paul affirme ici, dans ce passage? Mais soyons sérieux, soyons sérieux. La soumission dont Paul parle ici est un acte volontaire. C'est une réaction de confiance d'une femme envers un mari aimant, bienveillant, doux et valeureux. N'encourageons jamais, mais nous, hein, dans n'importe quel cadre que ce soit, n'encourageons jamais quelqu'un à se soumettre à un tyran, à un homme violent, à un lâche ou à quelqu'un qui dévalorise sa propre épouse. Jamais, n'encourageons jamais une femme à se soumettre à quelqu'un qui soit comme je viens de le décrire. Autre chose qu'on peut entendre de la part de messieurs, c'est, bon ben, d'accord, j'aimerai ma femme quand elle me sera soumise. Alors soyons clairs, vous allez attendre très longtemps. Si vous attendez qu'elle vous soit soumise pour l'aimer, vous allez attendre très longtemps. J'aimerais vous poser une question. Que disent systématiquement les enfants quand ils se sont disputés? Il y a une dispute et que vous les reprenez. Qu'est-ce qu'ils vous disent systématiquement? Exactement, je l'ai entendu, c'est lui qui a commencé. Regardons Jésus. Est-ce que lui a demandé que nous soyons parfaits pour venir mourir sur la croix? Moi, je veux bien, je vous aime bien, mais je vous aimerai beaucoup plus le jour où vous serez nickel, parfait. Peut-être que je mourrai pour vous, mais vraiment si vous êtes au maximum de la perfection. Jésus n'a pas réagi comme ça. Lui, c'est lui qui a commencé. Comme les enfants disent, c'est lui qui a commencé. Alors il me semble que cela devrait être de même pour nous, messieurs. N'attendons rien, mais alors rien de nos épouses pour les aimer. Il me semble que le premier pas nous appartient. C'est nous qui devons commencer. J'aimerais introduire une notion que j'ai appelée la spirale vertueuse. La spirale vertueuse, c'est « j'aime ma femme ». Un, ça c'est la volonté numéro un. J'aime ma femme. Ma femme m'aime et me le rend. Plus elle me le rend, plus je l'aime. C'est plus facile, effectivement. Et plus je l'aime, plus elle est en confiance. Et plus elle se sent épaulée par son mari. Et j'ai envie de dire, ainsi de suite, comme une spirale qui monte. Alors attention, la spirale inverse existe aussi, malheureusement. Et malheureusement, elle est la cause de bien des drames. Donc en résumé, considérer sa femme comme son propre corps, comme dit Paul, cela implique bien des choses dans nos couples. Premièrement, alors il y en a beaucoup d'autres, mais je me suis limité à certains points, je ne voulais pas faire trop long. Quelles conséquences? Premièrement, pas de violence dans un couple. Ah, ça peut paraître surprenant, mais ça arrive. Pas de violence dans un couple. Pas d'insultes. Pas d'insultes, pas de mots plus hauts que les autres. Pas de mépris non plus. Le mépris, c'est destructeur. Car rares sont les personnes qui se méprisent eux-mêmes. Mais à l'inverse, dans un couple, que nous y voyons des femmes choyées, comme nous chérissons nos propres corps. Que nous y trouvions des femmes respectées. Que nous y trouvions des femmes admirées. Eh oui, on a le droit d'admirer sa femme. Que nous y trouvions des femmes valorisées aussi, surtout si elles ont tendance à la dévalorisation. Jésus, lui, quel est son réflexe devant l'épouse qui est l'Église? Qu'est-ce qu'il fera pour son Église? Eh bien, je vous le relis, c'est le verset 27. Jésus fera paraître son Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est pas magnifique cette démarche du Seigneur Jésus pour son épouse, l'Église. Alors, comme je vous ai dit, je vais vous laisser trois applications pour les trois thèmes que nous allons aborder. Je vous laisse trois applications pour cette semaine. Et je vous, vraiment, c'est pas parce que c'est un message, une prédication, on oublie dès qu'on est sorti. J'aimerais vraiment que vous le mettiez en pratique. C'est tout simple, hein, c'est très rapide, c'est pas des devoirs à la maison très importants. Et moi, je vais le faire, hein, je vous assure, je vous promets que je le ferai. Cette semaine, je voudrais, messieurs, puisqu'on a dit que nous commencions, messieurs, je voudrais que nous mettions notre épouse en valeur cette semaine par un acte, par un effort particulier et inhabituel. Si on la met en valeur par quelque chose qu'on fait souvent, peut-être, ça ne se sera peut-être pas remarqué. Donc, messieurs, s'il vous plaît, mettons cette semaine notre épouse en valeur par un acte spécial et inhabituel. Et mesdames, ce que je vous demande, c'est de noter, alors pas sur un papier, mais de le noter et de verbaliser auprès de votre époux l'effort, enfin l'acte, parce qu'on ne va pas parler d'effort, hein, mais l'acte que votre mari aura fait pour vous. Peut-être pas comme Alain Auderset disait, bravo, c'est bien, parce que ça casse. Mais dites à votre mari, j'ai remarqué que tu as fait ça et ça m'a fait énormément plaisir. Verbalisez-le, dites-le. Eh bien, puisse ce simple exercice démarrer ou relancer la spirale vertueuse de votre couple. Peut-être que nous en avons besoin. Deuxième partie, parents et enfants. On y va, ça va? C'est pas trop compliqué? Je lis Éphésiens 6, les quatre premiers versets. Éphésiens 6, quatre premiers versets. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Voilà. Alors, ce passage, il est destiné à qui? Le verset 1 nous dit « Enfants, virgule, obéissez à vos parents, et ensuite honore ton père et ta mère. » Alors bon, je ne suis pas certain que les enfants d'Éphèse, il y a eu une école du dimanche spéciale pour lire la lettre de Paul. Certainement que les enfants ont été accompagnés dans cette démarche, parce qu'il me semble que l'impact de telles paroles sur des enfants ne susciterait pas forcément grand-chose de plus que des leçons classiques de tu dois ou tu ne dois pas. Donc il me semble que ce passage s'adresse bien sûr aux enfants, mais s'adresse aussi aux parents. Lorsqu'il est dit « enfants, obéissez à vos parents », il me semble que ce passage est adressé aux parents. Parce que la qualité première d'un enfant, vous savez ce que c'est la qualité première d'un enfant ? Sa capacité première. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire ? C'est de mimer. Un enfant, ça sait très très bien imiter. C'est pourquoi l'attitude des parents, me semble-t-il, est primordiale. L'éducation passe essentiellement par l'exemple que nous procurons, que nous montrons à nos enfants, et plus, bien plus, que toutes les réunions de famille, toutes les leçons que nous pouvons apporter à nos enfants. Attention, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas utile. C'est très bien. Et vraiment, je trouve super. Alors, chez nous, ce n'est pas moi qui le fais, c'est Hélène qui le fait à 100% du temps. Et je sais que ce que nos enfants ont gagné, c'est surtout à elles qu'ils le doivent. Mais les enfants voient ce que les parents font. Et les enfants sauront noter très bien s'il y a une différence de discours entre le discours du soir au lit et l'attitude de la journée qui est tenue par les parents. On ne raisonne pas non plus un enfant en lui disant « Alors, exactement comme je vous disais tout à l'heure, alors mon fils, selon la Bible, tu me dois obéissance et honneur. » Ou alors pire encore comme discours, « C'est moi qui commande ici. » Il n'y a pas de plus grande preuve de manque d'autorité que de s'exprimer ainsi. Parce qu'un vrai leader n'a pas besoin de réclamer de l'obéissance, il la provoque. Alors sur la phrase très précise de « Père, n'irritez pas vos enfants », alors ma femme me le dit souvent ça. Quand je joue avec mes enfants et que je les pousse à bout et que je les énerve, elle me dit « Père, n'irritez pas vos enfants ah. ». Bon, alors. C'est vrai. Il me semble que lorsque Paul a écrit ça, il pensait aussi à une situation d'excès. Un excès d'autorité, un excès de sévérité, voire de tyrannisme répété et permanent. Les conséquences d'un tyrannisme permanent sur un enfant sont désastreuses et on les connaît parce que je suis certain que nous avons tous vu des personnes qui ont été meurtries à tout jamais par peut-être l'attitude d'une mère ou d'un père qui s'est mal conduit. Et il y a parfois des séquelles qui sont très difficiles à combattre. Je ne suis pas en train de prôner un laxisme ouvert, mais lorsqu'il le faut, la voix peut être sévère et ferme. Mais lorsque la tempête est passée, retour au calme, retour à la paix et retour à la joie. Ce qui m'a intrigué dans ce passage que nous venons de lire, c'est l'absence de la mère. Alors certains pourraient s'en indigner. Moi, je pense qu'il faut voir les choses plus positivement que ça. Et je pense qu'il faut plutôt se réjouir que ce passage se soit adressé au père. Pourquoi ? Parce que très certainement, et c'est encore une réalité aujourd'hui, la présence, le rôle de la mère dans l'éducation des enfants, elle est indiscutable. Et il me semble que ça traverse les âges. De tout temps, la mère s'est occupée des enfants et à participer, à contribuer à l'éducation. Mais ce qui est intéressant, c'est que le père, lui, n'est pas au bistrot du coin, il n'est pas avec les amis en sortie, il a un rôle central dans la famille et dans l'éducation du père. Donc, réjouissons-nous plutôt de la présence du père dans ce passage, plutôt que de l'absence, de nous indigner de l'absence de la mère dans ce texte. Effectivement, le père, le papa, a un rôle central dans l'éducation de ses enfants et il se doit d'être un exemple pour ses enfants. Alors cela implique un fait pratique très précis et très simple, c'est que cela implique que le père soit présent. Il y a des pères qui sont souvent absents. Et moi, je ne vous cache pas, je vais vous le confesser, que j'ai été très surpris un jour, quand un de mes enfants m'a dit à table, « Papa, t'es jamais là. T'es soit à l'église ou soit au travail. » Et là, ça, je peux vous dire que ce message-là a fait l'effet d'un boulet de canon. Et il me semble que là, il y a un voyant qui s'allume. Il y a une alarme. Donc cela implique, messieurs, que nous soyons présents à la maison et pas tout le temps dehors. Alors je vais vous laisser une application, encore, puisque je vous... une application pour cette semaine, je vous demande une nouvelle fois de l'appliquer, si vous avez des enfants, évidemment. Alors je ne vais pas vous demander d'être plus présent à la maison, ça je crois que c'est plutôt permanent, mais... Alors, je n'ai pas besoin de vous demander, cette semaine, de planifier un temps de correction pour vos enfants. Ça, ils s'en chargeront. Il y aura très certainement cette semaine un moment où vous aurez besoin de reprendre votre fils ou votre fille parce qu'elle aura fait une bêtise. Ça, je n'ai pas besoin qu'on le planifie sur un agenda, il s'en charge. Mais ce que nous pouvons faire comme exercice, c'est bien sûr de sévir, d'être ferme, de réagir, de corriger l'enfant. Ça, nous le faisons très bien. Mais une fois la tempête passée, prenons volontairement un peu de temps, un temps de qualité avec notre enfant pour montrer à notre enfant qu'il n'y a pas que la fermeté et qu'il y a aussi des moments de qualité avec eux. Ça va ? Allez, on arrive à la dernière partie. C'est vraiment trois parties, j'allais dire distinctes, mais qui ne le sont pas tant que ça, parce que, bon, on pourrait parler pendant des heures, mais il y a des relations et des anti-relations aussi, parce que bon, on y viendra dans quelques secondes, vous allez comprendre. Troisième partie, employeur et employé. Employé, verset 5 à verset 9. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, alors vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne, de préférence. Il n'y a pas de préférence devant lui. Alors, chers amis, le service que rend un employé à son patron, c'est un service pour le Seigneur. Même si cette personne, alors j'ai essayé d'inventer un métier, je ne crois pas qu'on en ait dans l'Église, même si cette personne fabrique des films d'emballage pour des aliments. D'accord ? C'est un service pour le Seigneur. Le service que rend un patron, maintenant, qui, rappelons-le, lui aussi doit rendre des comptes à plus haut que lui. Et bien, c'est un service pour le Seigneur. Exactement la même chose. Alors, j'aimerais me permettre de toucher une notion, qui est la notion de ministère à temps plein, que on réserve de manière commune à des ministres du culte, et à des pasteurs, à des évangélistes ou à la rigueur de personnes qui sont engagées à temps plein dans des œuvres chrétiennes. Il me semble qu'on devrait dissocier la notion de ministre à temps plein et de ministre du culte. Mamie, clairement, est ministre du culte. Mes chers amis, je vais vous apprendre quelque chose, vous êtes tous ministres à temps plein pour le Seigneur. Quoi ? Ben oui, vous êtes tous serviteurs à temps plein. Alors si jamais quelqu'un travaille ici à mi-temps, je vous annonce que vous êtes serviteur à temps plein. Parce que ça dépasse les 35 heures, très largement. Et ce n'est pas parce que nous ne sommes pas pasteurs ou évangélistes que nous ne sommes pas au service du Seigneur. Vraiment, enlevons ça une bonne fois pour toutes de notre tête, parce que je l'ai déjà entendu. Nous sommes au service du Seigneur à temps plein. Le Seigneur nous a placés là où il a voulu que nous soyons, et il attend de nous que nous lui rendions le service pour lequel il nous a demandé de travailler. Nous servons donc le Tout-Puissant, là où nous sommes, que nous soyons vendeurs, que nous soyons comptables, que nous soyons commerciales, que nous soyons lycéens, couvreurs, fonctionnaires, chefs d'entreprise ou retraités. D'accord ? Et je peux vous dire que cette façon de voir les choses change beaucoup notre regard sur le monde du travail. Je ne dis pas qu'un travail, ça peut être difficile. Le travail peut être difficile, les relations de travail peuvent être compliquées. On peut avoir des tensions avec nos collègues, avec notre patron. J'en ai vécu. Mais n'oublions pas que nous sommes les représentants sur place de notre maître suprême qui est Dieu. Alors si mes relations avec mon employeur sont compliquées, on a tous connu ça. La qualité de notre travail s'en trouve affectée. Moi, il y a des fois où je ne peux pas travailler. C'est ce que je fais, c'est vraiment n'importe quoi. Il n'est pas rare d'ailleurs de voir des personnes aller jusqu'à la dépression parce qu'ils sont dans un cadre qui les contraint beaucoup et dans lequel ils ont beaucoup de difficultés. Eh bien, Paul nous apporte là une autre façon de voir les choses qui devrait considérablement nous aider. Ne rien faire pour se faire voir des hommes. Point. Mais tout faire pour se faire voir de Dieu. Et ça, ça change énormément. Parce que Dieu, lui, voit tout. Oui, parce que c'est pour le Seigneur que nous travaillons. Et cela devrait garantir de notre part une qualité de travail irréprochable. Et c'est lui qui s'occupera de notre difficulté au travail. C'est ça, c'est son rôle. Alors peut-être que vous me direz, oui, tout ça c'est facile à dire, mais je peux témoigner que c'est vrai. Alors, regardons maintenant de plus près ce que nous a dit Paul. Est-ce que Paul nous parle de soumission ici ? C'est pour ça que je voulais vous dire, on pourrait encore relier les thèmes entre eux. Paul ne nous parle pas de soumission, il nous parle d'obéissance. Il me semble qu'il ne s'agit pas là d'un détail. Il est parlé ici de crainte et de tremblement, par contre. Remarquez qu'à la femme, je reviens au premier thème, il était parlé de soumission, c'est-à-dire de mise dessous. Jamais Paul n'a parlé de crainte et de tremblement dans le couple. Là, il y a une différence. Il est absolument hors de question qu'une épouse vive dans la crainte et tremble devant quelqu'un. La soumission dont nous parlions plus tôt, je le répète, est une soumission volontaire, un acte de confiance absolue en un homme fiable et solide. Ici, par contre, il est question d'autorité, et contrairement au couple, de hiérarchie. L'un est au-dessus de l'autre. Alors, le fait d'être qu'un patron soit au-dessus de son employé, ça implique des conséquences très simples qu'on connaît très bien, je ne vais rien vous apprendre. Le supérieur prend des décisions, en prenant, le cas échéant, la tâche de ses adjoints. Il prend aussi la responsabilité pour son équipe ou pour son entreprise. Par contre, le salarié, lui, n'est pas payé pour porter ces responsabilités-là. Alors, ce qui est difficile quand on est chrétien et qu'on lit ce passage, c'est lorsqu'on occupe une place qui fait partie prenante d'un cercle décisionnel. Je ne vous cache pas que ça fait des mois que je réfléchis à ça, parce que je suis passé de l'un à l'autre il y a un an, d'un statut d'employé à un statut de un peu simili-employé, simili-patron. Et finalement, je peux vous dire qu'en tant que chrétien, ce n'est pas facile de mettre ce passage en application, parce que précisément, on est entre les deux, entre ce qu'on décide, et puis en même temps, d'être dévoué, de devoir respect, obéissance, écoute, de son patron. Je m'explique, je ne pourrais pas, je l'ai déjà fait, j'ai déjà dit à mon patron, sur une question très précise, c'est vous qui décidez. Et j'ai vu dans son regard un moment de... Il a été interloqué et j'ai compris, tout de suite d'ailleurs, que je n'avais pas été dans mon rôle. Mon rôle en tant que conseiller direct du patron, c'était de lui dire « Je vous conseille de faire ceci ». Après, à lui appartient la décision. Et ce n'est pas facile en tant que chrétien, quand on a ce passage, d'avoir la bonne attitude, d'avoir le bon dosage entre « J'obéis à mon patron » et je le conseille où je dois décider, si moi-même je suis patron d'une entreprise ou d'une équipe. Alors, je vais vous laisser encore une application pour cette semaine. Alors, je ne sais pas si vous avez une idée, On arrive à la fin. Hein. Eh bien, cette semaine, chers amis, que nous, même si nous n'avons pas de travail, en tant que ministre à temps plein pour le Seigneur, que nous soyons lycéens, étudiants ou maman au foyer, hein, je ne vais pas refaire la liste, ce que je vais vous demander, c'est de choisir un travail que vous avez fait dans la semaine. Un travail que vous avez fait, hein, pas que vous allez faire, mais que vous avez fait. Tiens, cette semaine, ah ben tiens, j'ai fait ça. Et je vous demandais de réfléchir et de vous imaginer d'apporter ce travail devant le trône du Seigneur. Et je fais exprès de dire devant le trône du Seigneur pour donner un aspect solennel à la cérémonie. J'apporte mon travail devant le trône, je présente le fruit de mon travail devant le trône du Seigneur. Et posons-nous la question, serais-je fier ou aurais-je honte de la qualité du travail que j'ai produit? L'ai-je fait pour des hommes, l'ai-je fait pour Dieu? Voilà. Alors je ne vais pas rallonger la conclusion, je vais simplement vous rappeler les trois conseils, les trois petits exercices que je vous demande de pratiquer. Pour mari et femme, messieurs, je vous rappelle, vous rappelez, c'était quoi? Mettez votre épouse en valeur par un effort particulier et inhabituel. Mesdames, notez le pas que votre mari a réalisé, verbalisez-le lui, hein, et renouvelez-lui votre confiance. Pour les parents, prenez un peu de temps, un moment de qualité avec votre enfant, s'il y a eu tempête, et il y en aura. Et enfin, employeur-employé, éprouvons la qualité de notre travail, comme si nous le présentions au Seigneur. Voilà, j'espère que ces trois thèmes vous auront parlé, vous aideront à grandir, aussi à prendre du recul quand on est dans des situations difficiles, je pense notamment au travail, le fait de savoir qu'on travaille pour le Seigneur et pas pour Charal, si vous découpez de la viande, peut changer beaucoup de choses. Et bien en tout cas, que le Seigneur nous aide, nous encourage et nous bénisse.
Bonjour à tous. Sans transition, une petite lecture pour introduire ce moment de scène. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en l'Éternel. Au début de ce psaume, c'est le psaume 2, on ressent une grande agitation sur la terre. Il y a du tumulte, il y a un complot principal qui semble en fait faire l'unanimité et dont on pourrait le résumer en disant: ce complot, c'est « séparons-nous de Dieu et de son oint ». Ce psaume a été écrit il y a environ 3000 ans. Et aujourd'hui, quelle réalité encore quand vous ouvrez la radio, la télé ou les pages web maintenant? quelle réalité tout ce conflit contre Dieu et contre son... Mais à la fin du psaume, on trouve un verset « Heureux tous ceux qui se confient en lui ». Et ça fait un gros contraste entre le début du psaume, où il y a de la révolte contre l'Éternel, et la fin, heureux celui qui se confie en lui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Bien, la réponse, on l'a au verset 6. Dieu a choisi un roi. Dieu a envoyé son fils pour nous faire passer, en fait, de l'agitation du monde, de la révolte, de la haine contre lui, à une réconciliation avec lui. On est passé de cette révolte à la paix avec Dieu. Ésaïe, dans le chapitre 9, dit, en parlant de Jésus-Christ, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, et il finit avec prince de la paix. On est passé de la révolte contre Dieu à la paix, grâce à Jésus. Et c'est ce roi que, au travers de la Sainte Cène, nous célébrons. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Alors, ce matin, si vous croyez que Jésus est ce roi dans votre vie, si vous croyez que ce roi de paix est venu sur la terre, si vous croyez qu'il est venu pour donner sa vie pour le salut de nos péchés, parce que nous étions en colère contre lui, pour nous donner sa paix au travers de sa mort à la croix, eh bien, si vous croyez en ce pardon, si vous croyez en cette résurrection qui nous montre sa puissance sur la mort et qui nous ouvre les portes de la vie éternelle, si vous croyez que cela vous fait vraiment passer de la révolte à la paix avec Dieu, eh bien, je vous invite à prendre cette scène, à partager ce pain, à partager ce vin qui nous rappelle la mort de Christ pour nous, pour que nous passions de cet état de séparation avec Dieu à cet état de paix et d'union avec lui en son Fils. Si vous n'avez pas encore fait ce pas, eh bien, laissez passer et peut-être interrogez-vous et demandez à Dieu qu'il vous éclaire et qu'il vous conduise à cette paix. On va prier. Seigneur, merci parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de tensions dans le monde, il y a beaucoup d'incertitudes, mais pour nous qui avons fait ce pas de la foi en acceptant ton salut, préparé de longue date, si nous avons accepté cela, Seigneur, nous pouvons passer vraiment au travers de toutes ces inquiétudes, de toutes ces guerres. Nous pouvons être en paix avec toi. Nous pouvons vivre en union avec ton Fils. Nous pouvons vivre aussi par ton Esprit tous ensemble. Vraiment, Seigneur, que ces instants nous permettent de nous souvenir vraiment de tout ce que tu as fait pour nous, de cette souffrance que tu as vécue sur la croix, mais peut-être aussi de nous imaginer cet amour que Dieu a témoigné en acceptant de sacrifier son Fils et de penser aussi peut-être à la souffrance du Père quand il a vu son Fils sur la croix. Seigneur, de penser à cela, vraiment, Seigneur, que cela puisse nous interroger. Amen. Nicolas et... Je rappelle juste que j'avais prévu de le faire avant, parce que j'aime pas le faire après, que le raisin, le jus de raisin est à l'intérieur et que la rangée externe, c'est du vin. Vous pouvez continuer à louer, puis on prendra un chant.
Oui, Seigneur, merci pour ce cadeau tellement immérité. Tu vois, nous ne méritions pas et nous ne méritons pas encore aujourd'hui. Mais merci car tu es fidèle. C'est pour l'éternité que tu nous as offert ce cadeau d'être libéré du péché. Nous vous. Merci Seigneur pour ce cadeau. Amen.
Seigneur, merci parce que, comme l'a dit Jean-Pascal, tu n'as pas attendu qu'on soit parfait pour venir nous sauver, mais tu es venu alors qu'on était pécheurs et. Pour ça, je veux te dire merci, Seigneur. Amen.
Seigneur notre Dieu, merci pour la grâce envers nous. Merci pour l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Cette œuvre magnifique, une œuvre d'amour qui nous accorde le pardon des péchés et la vie éternelle. Que nous puissions, Seigneur, tous les jours de notre vie, nous en souvenir. En souvenir que nous sommes des graciers, que tu as emmené des ténèbres jusqu'à ta lumière admirable. Merci Seigneur pour ce sacrifice. Merci pour ton amour et pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Toute ma reconnaissance pour ce sacrifice parfait avec toi. Seigneur, merci parce que tu nous donnes la paix. Tu pénètres nos cœurs et tu nous permets de vivre cette paix avec toi, en toi, par toi. Seigneur, tu es le prince de la paix. Nous voulons vraiment, Seigneur, te glorifier.
Yeah.
nous allons pouvoir passer au temps des annonces avec Martine.
Alors, pour démarrer la semaine, groupe MEPI, la mère en prière, deux fois le lundi, deux fois le mercredi. Donc les groupes se connaissent et si vous voulez vous joindre à eux, vous pouvez vous renseigner auprès de Lydie, Isabelle, Gisèle. Voilà. Le ménage, vous voyez, il n'y a plus le feuillet ramassé, a priori c'est bon, on arrive au bout. La famille Ulmer en haut, Le Maine et Marion en bas. Désolée, il manque une majuscule. Dans la semaine, sinon chronologiquement, c'est la semaine de l'étude biblique à l'église, sur un psaume avec Jean-Marc. Mercredi à 20h se réunira le conseil des anciens. Jeudi aura lieu le parcours découverte de la Bible.
Ce sera en fait le vendredi.
Ah, on maintient.
Voilà, parce qu'il y a une séance de rattrapage pour une famille. Et donc ce ne sera pas le jeudi.
D'accord. Et ça sera où?
Ça sera chez cette famille-là. Elle n'est pas là aujourd'hui.
D'accord. Mais,
cette famille est...
Voilà, de toute manière, ceux qui sont dans le groupe actuel se connaîtront et il y aura l'année prochaine, en 2019, une nouvelle série. Donc, vendredi, le groupe de parcours découverte. Vendredi aussi, à 18h45 et pas 18h30, le fitness. Ça permet de faire la jonction pour les femmes qui sont au fitness vers le groupe de femmes à 20h15. Sur la croissance spirituelle, pour celles qui ont fait des groupes de croissance cette année, faire le point, celles qui souhaiteraient... s'engager dans cette démarche. Voilà, c'est l'occasion de se retrouver aussi autour d'un petit goûter sucré et salé ou que sucré, gourmandise, friandise, vous mettiez comme on a envie. Donc laissez-vous inspirer. Et un petit cadeau d'une valeur de moins de 5 euros, déjà emballé, prêt à être échangé. Ensuite, information particulière sur la distribution des invitations de Noël. Raconte-moi Noël. Donc je vous ai mis la liste, mais mamie, je te laisse la parole, là, c'est plus simple.
Je vais le mettre
là-bas. Du coup, je le garde.
Oui, je sais.
Bonjour à tous. Voilà, alors comme vous le savez peut-être, ou comme vous ne le savez pas, donc je vous l'annonce, la fête de Noël aura lieu le samedi 15 décembre. Donc les invitations sont arrivées, hein. Il y a 2500 invitations en tout. Alors, il s'agit de les distribuer à bon escient. La première manière de les distribuer, c'est d'en récupérer déjà aujourd'hui, il y en a déjà au fond de la salle, afin de les donner à vos amis. Vos amis au lycée, vos amis de la famille, à la famille aussi, aux collègues de travail, aux voisins, enfin, en tout cas, des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées. Hein, des personnes peut-être que, pour lesquelles vous priez depuis longtemps, afin qu'ils viennent à l'évangile. Donc voilà, vous en prenez vraiment largement. Il y en a 2500, c'est beaucoup. Hein. La deuxième manière, c'est de les distribuer dans les boîtes aux lettres des quartiers qui environnent notre église, dans des rues adjacentes, on le fait tous les ans. Donc pour ça, il y a un tableau qui va être affiché. J'ai aussi envoyé ce qu'on appelle un doodle ou un doodle, je ne sais pas. En tout cas, c'est une manière de s'inscrire sur Internet. Après, on n'est pas toujours à l'aise là-dedans, donc il y a une manière aussi de remplir à la main. Donc pour mercredi, à partir de 16h30, donc l'idée, c'est de prier d'abord ensemble et d'aller pour distribuer ces invitations et évidemment d'harmoniser pour que dans une boîte aux lettres, il n'y ait pas trois invitations, quoi. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Le jeudi, c'est une autre manière aussi de distribuer. Il y a le marché sur la place de la Victoire. L'idée aussi, c'est d'aller pour distribuer. C'est vrai qu'il fait froid, donc préparez peut-être vos gants, mais distribuer, mais en même temps, distribuer aussi des calendriers, comment ils s'appellent déjà, les petits trésors cachés, voilà. Et on a aussi beaucoup d'évangiles de Luc, donc profitons-en pour donner. Ne soyez pas découragés par l'opposition que vous pourrez éventuellement rencontrer. Voilà, le Seigneur nous appelle simplement à distribuer, faisons-le. Et je sais qu'il y a aussi des gens qui sont ici qui ont l'habitude de mettre dans les commerces, et on a quelques affiches, une petite dizaine d'affiches à 4. Voilà, donc il y a aussi le samedi 8 et le dimanche 9. Le samedi 8, c'est à l'occasion du marché de Noël. Alors ça, c'est pratiquement toute l'avenue de la rue de Paris, je crois, voire un peu plus loin. Et là aussi, plus il y a de personnes qui s'inscrivent dessus, et plus on peut s'arranger. Il y a aussi les sorties de RER, éventuellement. Donc il y a RER Palaiseau-Ville, bon, RER Palaiseau, là-bas un peu plus loin. Voilà, donc voilà, vous êtes vraiment encouragés à le faire. Et le, alors ça, ce serait le samedi à partir de 10h30. Le jeudi, je ne l'ai pas dit, c'est à 10h30 aussi, mais toujours précédé d'un petit temps de prière ici. On se retrouve ici à, je ne me souviens plus exactement les horaires que j'avais proposés. Voilà, 10h, pardon, et on y va. D'accord ? Et puis le dimanche aussi, le dimanche après-midi, je crois que le marché de Noël continue le dimanche. Hein, voilà. Donc là, ce serait l'après-midi plus à partir de 14h30, prière ici, et hop, on y va aussi. D'accord ? Donc j'espère, en tout cas, je prie que chacun, en tout cas ceux qui pourront, qui sont disponibles, pourra donner un peu de son temps pour contribuer vraiment à annoncer l'évangile de cette manière-là. Parce que pour le 15 décembre, ce n'est pas une simple fête comme ça, on se réjouit, c'est avant tout l'annonce de l'évangile. Les gens, Noël, bon, pour eux, c'est la fête, etc. Si vous les invitez ici et qu'ils s'aperçoivent que ah, c'est la naissance de Jésus et c'est quand même un message fort, eh bien, voilà, ce sera déjà très, très bien. Voilà ce que je voulais dire. Donc, il y a un tableau que je viens d'afficher là-bas avec un stylo déjà pendu, là. Donc, n'hésitez pas, il y a des cases où vous pouvez vous mettre votre nom. Voilà, que Dieu vous bénisse.
Et pour continuer le service à plein temps pour le Seigneur. Alors, week-end prochain, donc le samedi, il y a la fête de Noël du Club de la Bonne Nouvelle dans une salle municipale à 14h30 avec Jeanne.
À l'occasion, je vais donner les invitations, s'il vous plaît. Je vais partager les invitations et chacun plus prendre, parce qu'il y en a pas beaucoup.
Donc les invitations passent dans les rangs. Si vous avez des enfants qui peuvent être concernés, jusqu'à 12 ans. À 17h30 jusqu'à 19h aura lieu une répétition du spectacle de Noël ici, à l'église.
Alors, donc, à ce propos, excuse-moi de te couper, il est absolument important que le maximum d'enfants puissent être là pour ce jour-là, parce que le jour approche et voilà, on a besoin vraiment de la présence de tous les enfants.
Donc, du coup, il n'y aura pas de groupe de pré-ado, hein, ça l'un remplacera l'autre. À 19h30, tu retrouveras le groupe de jeunes. Dimanche, donc nous aurons encore besoin de vous pour préparer la salle. 14h30 pour l'installation de l'estrade, sono et lumière, et à 16h, la décoration de la salle. Alors peut-être Jacques, pour l'estrade, tu veux faire voir sur qui te compter.
On vous sollicitera pour sortir assez rapidement de la salle, pour la dégager avec les quelques-uns qui seraient déjà là pour pivoter les bancs. Parce que c'est un grand déménagement puisqu'on change la configuration de la salle. Et l'idée, c'est qu'on se retrouve à partir de 14h, 14h30, pour là, des travaux un petit peu plus manuels, puisqu'il y a toute l'estrade à déménager. Donc ça serait bien qu'on puisse savoir sur qui est-ce qu'on peut compter.
Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui se sentent pour venir, pour aider dans ce sens ? Ah, merci, 1, 2, 3, c'est peut-être pas, voilà, 4, 5, Pierre, ok. Voilà, plus il y a de personnes et plus ça va vite. Hein. Donc même si vous n'avez pas levé la main et qu'après, à posteriori, vous pensez que vous êtes là, venez. Hein.
Bon, et sachant qu'il y aura la séance de rattrapage, quoi qu'il en soit, pour vous remettre le dimanche d'après.
Encore une fois.
Mais bon, c'est sûr qu'on a besoin d'être quelques-uns pour faire ces travaux de manipulation et de montage.
Alors pour tous les autres qui ont mal au dos, autre séance de rattrapage à 16h, la décoration de la salle. Donc, Dinak, Nadiège et moi-même, donc nous sommes à 3 pour le moment. Pareil, je pose la question, qui est-ce qui se sent encore de venir aider ? Donc, Meryl, Nathalie, 5, Irène, Charlotte, super, Aurélie, parfait. Merci les filles. Vous voyez que c'est très tendance fille, Dinak, tu vas te sentir pète. Il a besoin de lui pour accrocher les trucs en hauteur. Ensuite, on arrive à dimanche prochain. La répétition du spectacle de Noël, c'est encore 9h45, 11h30, donc avec Lactitera pour 6 pour les enfants. Groupe d'intercession à 10h en bas à l'église, comme toujours. Et puis les enfants encadrés par chronologie d'âge, par Cathy, Hélène. Les moyens, je ne l'ai pas mis. Alors, les moyens, je ne me souviens plus, mais ils doivent le savoir. Lydie pour le caté. Au niveau de l'accueil, c'est Françoise et Marion. Et l'intervention culte, Mamie, Michael et Dinac. L'agenda de décembre, donc avec les deux répétitions, on va dire, générales, estrade en place, ici à l'église, le vendredi 14 décembre à 19h, et le lendemain, samedi, jour du spectacle, le matin à 10h. Donc l'après-midi, à 16h, nous aurons notre fête de Noël, suivie d'une collation. Et donc là, je rappelle, merci pour vos friandises, goûter, gâteaux, acheter ou faire, voilà, que vous pourrez déposer directement quand vous arrivez à votre spectacle, pour qu'on puisse agencer tout cela. Merci à Carole pour la mise en place des tables le matin. Ensuite, nous avons la fête de Noël toujours, mais des seniors, le mardi 18 à 15h, ici à l'église. Et le réveillon, cette fois-ci du Nouvel An, le 31 au soir, qui va être coordonné par François. Donc je pense qu'il va mettre un tableau aussi affiché. Voilà. Et petit sujet de prière, pardon, pour les personnes seules, en souffrance, que nous connaissons autour de nous, notre fête de Noël. La mission de Céline de Quéron en Côte d'Ivoire, d'alphabétisation, dont nous parlons régulièrement. Et je l'ai mis aussi tout particulièrement parce que nous aurons quelques nouvelles par son papa qui est avec nous aujourd'hui. Et on vous a laissé un verset, racheter le temps, qui était dans la lecture de cette semaine, c'est-à-dire saisissez les opportunités pour annoncer le Seigneur. Et rappelle toujours, il y a les calendriers au fond, les tarifs sont affichés, à effeuiller, à accrocher, les trésors cachés, à distribuer pour...
C'est le statut. Jean-Marc, tu voulais...
Je voulais juste préciser qu'avec Nyarlathotep, on a annulé le groupe de jeunes de la semaine prochaine, parce que comme il y a la répétition avant, on a pensé que ça faisait beaucoup plus.
Mais
que... pour compenser, après la fête de Noël, donc le samedi d'après, ben on fera groupe de jeunes.
Groupe de
groupe de jeunes. Ils sont tellement grands que... Merci.
Alors... Christophe, est-ce que tu veux bien venir? Et du coup, est-ce que il y a des personnes qui viennent ici pour la première fois, qui voudraient se présenter? Sentez-vous la liberté? Et je ferai passer les corbeilles de l'offrande aussi. Personne? Non, je te laisse.
Donc, bonjour à tout le monde. Donc, vous voulez en dire quelque chose? Rassurez-vous. Le culte se termine bientôt, mais rassurez-vous que, donc, en fait, la plupart des gens peut-être ne me connaissent pas tellement. Donc, il y a une quinzaine, 16 ans, je suis parti de l'église,